Radio Scénique, Éric Dauterre, bonjour. Seul ? Pas vraiment, c'est le titre que nous avons choisi pour la 8e édition de ce magazine consacré au spectacle vivant. C'est sous ce titre que nous avons assemblé deux spectacles et deux comédiens très dissemblables. Le premier s'appelle Étienne Duroux, il incarne Cousin, un drôle de bonhomme un peu inquiétant qui fuit ses semblables mais trouve de l'affection auprès de Gros Câlin, son python. Gros Câlin, c'est le titre du spectacle présenté en ce moment au Théâtre du Chariot. Nous recevons le comédien Étienne Duroux et Julie Roux, sa metteuse en scène. Le deuxième de nos invités s'appelle Stéphane Reich. Et lui, on imagine qu'il aimerait parfois être seul, mais pas le temps. Entre ses rôles de mec, de père et de fils, il est pressé de tous les côtés. C'est ce qu'il nous raconte dans son seul en scène qu'il présente au Théo Théâtre sous le nom de Daron Noir. Pauline Guilherme sera notre dernière invitée. Nous l'aurons au téléphone dans le cadre de notre partenariat avec les EAT, écrivains et écrivaines associés du théâtre. Elle nous présentera son texte lauréat. Il a pour nom « Gardienne des baies ». Vous avez le programme, éteignez vos portables. Voici que le rideau se lève sur Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Je puis, en tout cas, assurer l'amateur éclairé, qui hésite encore à acquérir un python, que je n'ai aucun problème d'incommunicabilité avec Gros Câlin. Lorsqu'on est bien ensemble, on n'a pas besoin de se rassurer, de se mentir. C'est même au silence qu'on reconnaît le bonheur. Je me sens différent, accepté, entouré de présence. Je me souviens de ce que m'a dit l'autre jour Mademoiselle Dreyfus au bureau. Vous avez croisé hier sur les Champs-Élysées. J'ai été stupéfait de la hardiesse avec laquelle elle a manifesté son attention. Elle est très belle. Avec une mini-jupe et des bottes en cuir. Je me réveille la nuit. Parce que Gros Câlin dort si fort qu'il risque de m'étrangler. C'est l'angoisse. Alors je prends des petites pilules et je me rendors.
Étienne Duroux, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qu'on vient d'entendre dans ce court extrait de Gros Câlin que vous présentez au Chariot Théâtre.
Hein. Complètement.
Alors vous y jouez, ou plutôt vous y incarnez Cousin, un drôle de bonhomme qui a bien du mal avec ses contemporains et qui va trouver refuge dans les anneaux d'un gros python de 2,20 m, qu'il nomme Gros Câlin. Et il y a toute une ambiance, et cette ambiance-là, Julie Roux, c'est vous qui la coordonnez, vous êtes la metteuse en scène de tout ça.
Oui, tout à fait.
Alors, Étienne, Julie, c'est quelques mots sur l'histoire.
Alors, l'histoire de Gros Câlin.
Oui.
Du coup, c'est effectivement donc Monsieur Cousin qui habite un deux pièces dans l'agglomération parisienne, comme il l'explique, et qui souffre de la solitude, qui a du mal à rentrer en contact avec la société dans laquelle il évolue et qui va nous raconter ses interactions sociales en présence de son python, ce qui n'est pas toujours simple.
Il a tellement de mal avec la société. Qu'il hésite à rentrer sur le plateau. Il
oui,
rentre pas
ça.
Tout de suite.
C'est ça, en fait, il a du mal. Le personnage du roman, enfin, de l'adaptation théâtrale, a du mal à s'investir dans les liens, en fait. Et donc, pendant toute la pièce, il fait des tentatives. Des tentatives qui vont échouer parce qu'elles n'ont pas de prise, en fait, concrète. Elles ne produisent rien avec l'autre. Donc,
ce personnage, au début de la pièce, vous l'avez voulu très corseté. Hein, il a une chemise boutonnée jusqu'en haut, avec un sourire un peu figé sur le visage. Et cet air que vous portez sur le visage, au début de la pièce, hein, cet air assez angélique. Hein.
Et juvénile. Enfin, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. L'idée, c'était vraiment de travailler sur quelque chose déjà sur moi-même que je peux dégager et surtout pas essayer d'aller sur le terrain de la folie pour montrer aussi un petit peu que la société a un impact. C'est pas juste cette personne qui vrille, c'est aussi d'un seul coup tous ces rendez-vous ratés à force de s'accumuler vont aussi l'amener quelque part.
Je parlais d'une ambiance totale, Julie Roux, parce que ce spectacle, vous l'avez voulu très ambitieux. Hein, c'est un spectacle à un seul comédien avec le Python qui est évoqué mais jamais montré, qu'il est suggéré. Et vous l'avez voulu, spectacle total avec un dispositif scénique, un éclairage soigné et surtout une ambiance musicale qui nous amène petit à petit à une sorte de malaise, de torpeur et de malaise.
Mmh. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu le véhicule qui permet d'accompagner, enfin de suivre Cousin dans ses pérégrinations et ses circonvolutions de Python, sa pensée en anneau, comme il dit. Et c'est vrai que, voilà, pour accepter, enfin pour finalement, la musique permet au public de le suivre sans jamais se poser la question, en fait. Donc finalement d'être un peu trompé aussi par Cousin, comme un serpent qui vous attire dans ses anneaux pour finalement vous dévorer, parce que ça parle de ça aussi, c'est-à-dire ça questionne sur notre responsabilité à prendre soin des autres, parce que Cousin, à force d'être si seul, et va se transformer, mais potentiellement pour devenir un monstre. Il s'agit d'un python, en fait.
Alors, ce monstre, il ne va pas se révéler tout de suite, il va se révéler au fur et à mesure de l'intrigue de ce court spectacle. Hein. Ce qui fait que vous êtes tout en crescendo, tout en nuance, tout en crescendo, pour terminer, on l'écoutera tout à l'heure, dans une sorte de délire.
Complètement, oui, d'attentat peut-être même. Enfin, c'est marrant parce qu'en échangeant avec les publics à la fin du spectacle, il y a plein d'interprétations différentes. De cette fin. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un événement qui déborde.
Comment est-ce qu'on arrive à ce que Étienne Durot soit pas en roue libre et que ce ne soit pas qu'un seul exercice d'acteur ? Parce que c'est tentant hein, de commencer de manière angélique et de terminer à la Jack Nicholson. Julie Roux,
alors
vous qui le mettez en scène.
Moi, je travaille beaucoup. Alors, une fois qu'on a créé l'univers avec Aurélie Lemaignan, la scénographe, donc l'univers, c'est un peu comme une espèce de maquette qui ne serait pas solide ou sur laquelle on ne peut même pas s'appuyer. Il n'y a rien qui le retient. Il y a des murs, mais ils sont en papier. Enfin, voilà, le décor n'est pas contenant, quoi. Et une fois qu'on a cet univers-là, et on essaye dedans de construire de construire une représentation au présent, toujours avec le public. Et moi, je travaille beaucoup sur la direction d'acteur, c'est-à-dire que je suis très précise sur, en tout cas, les intentions. Après, lui, il navigue dedans. Mais en tout cas, je sais ce que je veux que ça crée par rapport au public. Un peu comme du clown, par exemple.
C'est bien construit au présent. Voilà. Sur Radio Scénique, aujourd'hui, sur Aligre FM, nous recevons Étienne Durot et Julie Roux pour le spectacle Gros câlin.
C'est un serpent python, c'est un python serpent qui se promène dans la forêt en cherchant à dévorer un beau petit lapin ou bien un nègre fin. Car le serpent python a faim, il a une faim sans fin. Les bêtes et gens sont partis hier loués par la métro Goldwyn-Mayer pour figurer dans un film de Tarzan qui doit rapporter beaucoup d'argent. Mais le serpent piteux est triste et se mord la queue, car il comprend au désespoir qu'il ne mangera pas ce soir. Soudain le bois s'éveille, arrivent des appareils de prise de vue, de prise de son. C'est la scène du grand frisson. On lâche des animaux, des lions et des rhinos, séroces qui ont l'air féroces comme tout, mais sont doux comme des toutous. Notre serpent du haut d'une branche en l'air voit Monsieur Johnny Weissmuller qui fait joujou avec un éléphant. Quel joli tableau pour les enfants. Mais tant de cinéma ne remplit pas l'estomac du pauvre piton qui n'aura pas de repas. Quand une idée subtile germe au cœur du reptile, profitant d'une répétition, voici qu'avec précaution, dans l'ombre du crépuscule, il avance, il recule, puis happe un morceau minuscule, un morceau de pellicule qui dépassait d'une boîte en fer. C'était la grande scène du Val d'Enfer, tournée le matin dans une cloche à plongeur pour mieux voir évoluer le nageur. et comme un spaghetti. Le python, en appétit, avale 200 mètres. À présent, des aventures de Tarzan.
Puis il Radio Scénique joyeux, par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Dans Radio Scénique, aujourd'hui, nous évoquons, entre autres, un spectacle Gros câlin avec Étienne Duro et mis en scène par Julie Roux au Théâtre du Chariot. Et nous les recevons tous les deux aujourd'hui. À l'origine de Gros câlin, Julie Roux, il y a un roman. C'est le premier Cromagary publié sous le nom d'Émile Ajar. Histoire de voir si le talent sans le nom, ça fait encore le succès. C'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est le premier. Et puis, donc, il adopte un style totalement différent, même si on verra plus tard qu'il a laissé plein d'indices dans ce livre qui disent que c'est lui, en fait. Mais effectivement, il se transforme. Il y a une forme de métamorphose dans ce bouquin de l'écrivain. Et moi, j'ai vraiment pas du tout dénaturé l'œuvre. C'est-à-dire que c'est vraiment le style de Gary, c'est son écriture. C'est un livre qui est écrit à la première personne. J'ai coupé des choses, j'ai fait des choix. Et j'ai agencé en fait chronologiquement ce que j'avais gardé, les extraits, pour qu'il se passe quelque chose en 1h10 sur scène, qu'il y ait une évolution, une montée dramaturgique. Et le point de départ de cette adaptation, c'est la fin, qui s'appelle la fin écologique du roman, qui n'a pas été publié au moment de sa sortie parce que un peu trop on va dire engagé. Révolutionnaire engagé les éditions n'en ont pas trouvé judicieux de le sortir au moment de la publication et cette fin c'est vraiment la scène finale de la pièce. Bon, je vais pas la dévoiler là, mais où il y a vraiment une tentative de s'extraire de la folie du monde, de la modernité, qui parle beaucoup d'écologie, qui est assez visionnaire. Et voilà, pour moi, c'était vraiment la colonne vertébrale de l'adaptation. C'était la finalité à laquelle je voulais arriver.
Dans votre note intention, vous parlez de Cousin, donc le personnage que vous incarnez, Étienne Duroux, comme d'un écorché vif, brutalisé par la vie moderne. Mais c'est aussi un homme éligible au traitement psychiatrique, non, Étienne ?
Oui, oui, complètement. D'ailleurs, dans le roman, et tu le suggères quand même, il fait un passage par la case hôpital psychiatrique, très clairement. Et même, je trouve, c'est aussi, Julie évoquait la scénographie tout à l'heure, mais on peut aussi projeter peut-être la chambre dans un HP, dans ce que peut raconter la scénographie. Il y a aussi la présence de ce fauteuil sur lequel Cousin s'allonge pour s'adresser au public, qui peut évoquer aussi peut-être tout le travail psychanalytique.
Alors, il n'est pas tout seul, Cousin, il est avec son python, mais il y a également un certain nombre de personnages qui peuplent ses fantasmes, qui peuplent aussi sa vie sociale, parce qu'il a une petite vie sociale, il travaille et au boulot il y a Mademoiselle Dreyfus avec sa mini-jupe et ses bottes en cuir hautes sur laquelle il fantasme complètement. Il y a aussi son patron un peu psychorigide
sur lequel il angoisse là pour le coup,
et le curé qui est là pour recueillir ses angoisses, mais le curé qui le déçoit.
Ben, le curé qui le déçoit et en même temps le curé qui est une sorte de projection de lui-même, comme si c'était son double, comme si c'était un petit peu cet être qu'on recherche, mais qui est dans lequel il y a de soi quand on se tourne vers des religions peut-être.
Parce que Cousin, il veut pas de Dieu, le Dieu c'est pour tout le monde, il veut son Dieu à lui.
Voilà, il veut pas un Dieu qui partage, il veut son Dieu complètement, c'est ce qu'il explique dans sa quête, peut-être pour avoir les réponses qui lui sont propre et qui n'a pas.
Julie Roux, c'est quoi l'histoire du choix de ce texte de Gros câlin ?
C'est vraiment une rencontre. En fait, on a travaillé il y a quelques années avec Étienne sur l'affaire Gary Ajar, justement. On avait créé des lectures musicales avec notamment Yann Pompidou, qui a créé la musique du spectacle Gros câlin et qui la joue en direct. Et on a présenté ce travail notamment à des publics très variés, notamment des jeunes, et vraiment le texte...
En lycée professionnel.
Oui, en lycée professionnel notamment.
Il faut préciser que vous, tous les deux, vous formez une troupe qui est en région. Vous êtes
en milieu rural.
En milieu rural, d'autant plus, vous apportez le théâtre à des gens qui n'auraient pas l'idée
qui en sont éloignés. Géographiquement, déjà, c'est vrai que tout le travail, quand on est sorti du Conservatoire National avec Julie, on a eu envie de questionner la place du spectacle vivant auprès de publics qui peuvent en être éloignés, déjà géographiquement, mais aussi symboliquement.
Alors, je vous ai interrompu sur l'histoire
mais non,
de ce
c'est
texte.
C'est bien de rappeler ça parce qu'effectivement, en fait, et c'est aussi toute la force de Gary, je trouve que c'est une écriture qui est extrêmement riche et en même temps extrêmement accessible parce que très humaine, en fait. Et on a été surpris, en tout cas, pas forcément surpris, mais en tout cas, on a remarqué à l'occasion de ces lectures que les jeunes étaient très touchés par le texte de Gros Câlin.
Qu'est-ce qui les touche ?
Mais je crois la peur de la solitude, de ne pas savoir, en fait, appréhender l'autre, aussi être regardé, en fait. Être regardé, être transformé par le regard de l'autre, en fait. Et c'est ça qui manque aussi, voilà, cette peur de l'identité, de se définir, et en même temps cette volonté féroce de le faire. Voilà. Et je crois que cette question de l'identité qui ressort beaucoup dans ce livre, c'est quelque chose de très universel et qui est assez constitutif du développement de chacun, en fait. Et pour les jeunes, en fait, là, par exemple, au Théâtre du Chariot, il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui disent « je me reconnais complètement là-dedans, c'est incroyable comme ça me parle », alors que c'est un texte qui a été écrit dans les années 74, il y a quasiment un siècle. Non mais voilà, on se dit « on y était déjà », mais en fait rien n'est ringard, rien n'est... c'est encore très actif et ça m'a donné envie de poursuivre ce travail et ça fait quasiment 10 ans qu'on travaille sur ce texte. En fait.
C'est ça, il y avait le côté rencontre. Nous, c'était une rencontre ce texte. C'est vrai que moi, au théâtre, j'aime bien la question de l'identité. J'avais beaucoup travaillé sur Peter Pan avant et du trouble de l'identité. Et d'un seul coup, nous, on a eu cette rencontre avec ce texte en le travaillant avec des élèves qui étaient éloignés de la littérature et qui ont vraiment vécu la rencontre avec ce texte aussi. On est aussi allé travailler avec des classes de primo-arrivants où là, il y avait aussi une autre rencontre, un autre type de rencontre avec ce texte. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on s'en empare.
Oui, avec des phrases qui résonnent comme « Il est merveilleux de sentir chez soi quelqu'un qui vient de si loin et qui est arrivé jusqu'à nous. » Parce qu'il faut dire que ce texte est une suite de punchlines.
Oui, tout à fait. J'en ai relevé quelques-unes. On les évoquera tout à l'heure. Moi, je vous propose une chose, Julie Roux et Étienne Durot, c'est d'écouter un autre extrait de Gros Câlin qui témoigne de l'évolution de la folie de Cousin.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Leur assiette. J'ai subi une leurre à cause de l'énormité. Je l'ai mangé, ils n'ont rien dit. Je crois qu'ils ne l'ont même pas remarqué à cause de la monstruosité. J'ai pris une autre frite. C'était plus fort que moi, c'était irrésistible. J'ai continué 3-4 frites. J'étais couvert de sueur froide, mais c'était plus fort que moi. La faiblesse, croyez-moi, c'est irrésistible. Et encore une frite comme ça, en toute simplicité, entre amis. J'étais épouvanté par mon fort intérieur. Je faisais une sortie, une percée, quoi. Et encore une frite, le commando de l'amitié. Je dois faire un peu, je ne peux pas. Je vais être là. Je ne peux pas mettre 68. Je suis un gros câlin moyen, comme tout le monde. Je ne suis pas loin de là. Le plus beau des pitons de Paris. Ta-ta-ta ! Ta-ta-ta ! À pas les histoires !
J'aime voir, cher indolent, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Des yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait est un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants. Quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, moi boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème, étoile mon
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Et oui, le théâtre aujourd'hui qui a pour nom Gros Câlin et qui a pour invité Étienne Durot et Julie Roux. Étienne Durot qui est Gros Câlin, enfin qui est le propriétaire de Gros Câlin, Julie Roux, qui est la metteuse en scène de ce spectacle présenté actuellement au Théâtre du Chariot. On parlait tout à l'heure d'identité, de problèmes d'intégration. Ça parle de ce personnage-là finalement. Le fait que, alors forcément vous vous êtes choisi vous, puisque c'est un spectacle de votre compagnie, mais Julie Roux, le fait d'avoir choisi Étienne, dont on ne le voit pas, mais qui a l'air juvénile et qui a l'air sympa comme tout, ça introduit cette étrangeté et cette évolution de personnage. On ne s'inquiète pas pour lui tout au début, on le trouve étrange.
Oui, c'est ça, mais je pense que aussi, quand on dirige un comédien, il faut faire avec ce qu'il est. Donc on a eu ce choix de texte et effectivement, on avait envie de travailler ensemble sur ce texte et sans doute que la nature d'Étienne a fait cousin. C'est-à-dire qu'on est parti sur ça parce qu'il est comme ça. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'un retour qu'on a, c'est qu'en fait au départ, on le trouve très sympathique et finalement, petit à petit, on se dit « oulala », mais un peu comme avec le serpent. C'est-à-dire que quand on le voit s'approcher, on se dit « finalement, j'ai pas du tout envie de ce contact ».
Pas si sympa, c'est plutôt gênant quoi.
Voilà. Non, ouais. Et on travaille là-dessus et c'est vrai que ça permet justement effectivement de tromper un peu le spectateur sur la nature de, donc on est complètement dans l'essence du texte quoi.
Vous parliez de cet aspect, oui pardon Étienne, je vous ai interrompu.
J'allais juste revenir sur l'aspect jeunesse, c'était aussi une volonté parce que effectivement là c'est moi qui l'interprète, mais c'est pas un duo au sein de la compagnie, même si on co-dirige la compagnie, que ce soit forcément moi qui interprète si je le mets en scène, mais là tu avais aussi envie de travailler sur une figure de la jeunesse pour Monsieur Cousin, oui, parce oui, que c'est vrai que quand on l'a vu au théâtre, c'est plus, et même en lisant le roman, on peut très vite penser à quelqu'un un petit peu plus âgé, d'une cinquantaine d'années, un petit peu installé, tout ça, quoi.
Oui, parce que mais c'est un jeune statisticien, hein, c'est dit, mais c'est vrai que comme il y a l'aspect numéro d'acteur, on va peut-être confier ça à quelqu'un qui est installé dans le jeu, et je pense qu'il ne faut pas.
Enfin, le Covid nous a révélé que la solitude est un phénomène qui touche aussi essentiellement les jeunes, qui a touché essentiellement les jeunes.
Bien sûr, regarder le monde qui t'entoure à travers la fenêtre de ton appartement, je pense que ça peut parler, et d'autant plus après cette expérience de confinement.
Il y a un aspect qui m'a échappé en tant que spectateur, c'est l'aspect écologique. Vous le disiez tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y revienne dans les deux, trois minutes qui nous restent. En quoi est-ce que ce texte parle d'écologie et de préservation des espèces, Julie Roux?
J'ai l'impression que... Alors, le texte à la fin est clairement très accusateur. Il dit « Je mange de plus en plus de merde dans un but cancérigène ». Enfin, voilà, on peut se retrouver là-dedans dans une société d'hyperconsommation et tout ça. Mais ça pose la question de... C'est quoi l'écologie? Et qu'est-ce qu'on fait de l'humain dans un combat, enfin, en tout cas, dans un changement écologique? Et que finalement, c'est aussi... peut-être qu'il faut prendre soin des relations qu'on a les uns les autres, et que la transformation se fera si on est capable d'imaginer ensemble un autre monde. Et donc, si le lien est rompu, on ne pourra pas imaginer ensemble.
Alors, il,
et
le,
donc,
il le dit dans une espèce de logorée, on l'a entendu tout à l'heure, la voix à la limite de la cassure, dans une espèce de gueuloir.
Le tout sur un fond musical qui prend de plus en plus d'ampleur.
Il y a une espèce d'apogée du spectacle à ce moment-là.
En fait, il y a deux portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire, soit il y a un attentat, soit il y a une transformation qui va vers une libération et peut-être plus d'humanité. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire, peut-être que revenir à un devenir animal permettrait de retrouver de l'humanité qui n'est pas là ou qui n'y est pas encore aussi. Voilà, on n'a peut-être pas rêvé l'humanité qu'on mérite.
Alors, au cas où les auditeurs ne l'auraient pas compris, on les invite vraiment à aller voir Gros Câlin au Théâtre du Chariot à Paris. Julie Roux, Étienne Durot, merci.
Merci.
Stéphane Reich, bonjour. J'ai oublié Radio Scénique sur Aligre FM. Aujourd'hui, le sous-titre de notre spectacle, c'est « Seul, pas vraiment ». Stéphane Reich, bonjour.
Bonjour Eric.
Quand on fait des recherches sur votre compte, on tombe rapidement sur un CV de 15 pages qui atteste d'un doctorat en études italiennes, d'une expérience un peu costaud en enseignement et de bien d'autres choses qui touchent à la dramaturgie et à la mise en scène et au jeu. Mais qu'est-ce qui vous a amené à présenter ce daron noir sous-titré « Mec, père et fils » ?
C'est aussi le CV, hein. C'est tout ça, c'est tous ces parcours avec des diplômes qui ne servent pas, mais qui quand même nous servent à nous pour avancer, pour se construire une identité. Et puis le jour où on devient père, en tout cas ça a été mon cas, on revoit les choses, on revoit le passé, on revoit le futur aussi, à travers les yeux de ses parents et puis les yeux de ses enfants aussi.
Vous avez eu l'occasion de réfléchir à ça trois fois, puisque vous avez trois enfants, hein, trois enfants dont vous parlez. On reviendra tout à l'heure sur les enfants, parce que ceux qui ont l'honneur du début du spectacle sont vos parents. Vous êtes l'alliance de deux fromages, dites-vous dans le spectacle. Un Italien, un Auvergnat, vous êtes l'alliance entre un Nectaire et un Parmesan, c'est ça ?
Exactement, Cantal ou Saint-Nectaire, ça dépend des goûts, mais et le Parmesan, là, oui, celui-là, c'est un indécrottable, si je puis me permettre le jeu de mots. Oui, on n'échappe pas à son passé, il faut faire les comptes, comment on dit en italien, faire les comptes avec son passé, avant de pouvoir envisager ce qu'on fera de son avenir.
Mère italienne calabraise et père...
Cantalien. Ouais, je suis un cantalabrais, c'est comme ça qu'on m'appelle entre amis, voilà.
Alors, loin d'être un seul en scène narcissiso-blagounette, vous êtes au contraire très disert sur la famille, et pour cause, elle prend une place énorme. Les parents, pour commencer, hein.
Les parents
votre
pour
naissance,
commencer.
Déjà.
La naissance, il faut passer par... Il faut revoir la naissance. Il y a une phrase qui, moi, m'avait marqué il y a quelques années, c'est effectivement des gens qui ont des névroses et qui se révèlent autour d'une table en buvant un verre de vin. Et puis, c'est vrai que moi, à chaque fois que je voyais un morceau de fromage, je pensais à mes origines. Et donc, j'ai intégré cette phrase dans mon spectacle. C'est à chaque fois que je mange un bout de fromage, j'imagine comment j'ai été conçu.
Et vous racontez
à partir de ça, à partir d'une mozzarella, d'un repas. Et comment cette naissance, revoir le discours qu'on se fait de sa propre naissance,
Tour de tête.
Hein, voilà,
parce que vous êtes né, hein, vous le dites de manière plutôt explicite, vous avez tout déchiré.
J'ai tout déchiré, ouais, dans
y
tous les sens du
mère.
Terme. Oui, ça arrive, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous raconte. Et quand on nous raconte quelque chose, ça construit notre récit personnel.
Votre naissance, vous l'avez dit, c'est le moyen de s'interroger sur les origines. Mais est-ce que c'est... Là, on entend, vous faites intervenir pas mal le piano. Et là, écoutez, qu'est-ce qu'on entend là ?
On entend du Ravel.
C'est du Ravel. Barre,
bah oui, voilà, c'est la barque sur l'océan. Alors là, c'est pas moi qui joue. Hein.
C'est pas vous qui jouez.
C'est vachement mieux.
il faut le mentionner, vous jouez pas mal au piano. Et qu'est-ce qui se passe sur cette barque sur l'océan?
Alors déjà, j'aime beaucoup la musique, donc dans tout le spectacle, le spectacle est truffé de musique, de petits jingles à la musique classique, à de l'orchestre aussi, en version pianistique, il y a des choses très différentes. Et cette pièce-là, La barque sur l'océan de Ravel, elle a cette cantilène qui revient un petit peu dans les nuages. Et c'est marrant parce que mes enfants, quand ils m'appellent, ils ont exactement cette cantilène-là. Papa, je suis là, papa, j'ai faim, papa, je m'ennuie, etc. Et donc, en partant de cet effet musicalo-familial, eh ben, j'ai tissé une histoire, l'histoire de ma vie d'aujourd'hui, avec des enfants et avec des parents.
Vous le dites dans le spectacle, dans un bon one-man show, il faut parler de sexe, d'origine, et il y a un troisième terme.
Et de métro, et de métro qui est en retard, de la RATP. Bah oui, oui, c'est... Mon spectacle, en fait, il parle de mon parcours. Il y a eu aussi cette formation en stand-up au cours des deux dernières années. Je suis tout frais sorti d'une école de one-man show à Paris, et j'aime beaucoup mélanger les styles. Du coup, on parle avec un petit peu de dérision aussi du fait de faire une école de stand-up à mon âge, parce que j'ai 41 ans, ce qui est plutôt rare, hein, c'est plutôt autour de 25, 20, 30 ans qu'on fait ce genre d'école. Et du coup, je mélange les styles qui me forgent, de la musique classique au stand-up.
Alors, vous le dites en intro, j'avais préparé un spectacle pour parler de moi, et finalement, je parle de mes parents. Tenez, justement, on en vient à la genèse avec un extrait de Daron Noir, pris sur le vif.
Vous avez trouvé ça très bizarre, mais moi, à chaque fois que je mange un bout de fromage, je pense à la manière dont j'ai été conçu. Ouais. À quel endroit, dans quelle position? Voilà, chacun ses névroses, hein. Et en même temps, je trouve que c'est une question hyper importante à poser à ses parents. Quand on arrive à ce degré d'intimité avec eux, tout s'apaise. Parce que sinon, tout est... Ça pèse. Bon, alors tout ça pèse, les parents. Moi, je suis né le 6 mai 83, donc logiquement, ça a dû être en août 82. Un truc romantique. En bord de mer, peut-être un pique-nique au clair de lune. Ambiance, les feux de l'amour. Ma mère se balade au bord de l'eau avec un panier sous le bras. Mon père la rejoint avec ses sabots auvergnats. Il est tout mouillé. Elle aussi. Elle saute dans ses bras, il rigole. En même temps, je trouve que ça manque un peu de piment, quoi, de mafia. Je vous propose les feux de l'amour du parrain, avec solo de mandoline.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Un Radio Scénique qu'on consacre aujourd'hui au thème seul, pas vraiment. Et vous, Stéphane Reich, vous aimeriez bien être seul?
J'aimerais bien être seul et en même temps, j'ai besoin de la compagnie. C'est-à-dire que c'est ça l'avantage et le plus gros inconvénient d'avoir une famille, mais famille au sens large, hein, ses propres parents, ses grands-parents et puis ses enfants. C'est qu'on est très content de cette compagnie-là, et puis en fait, il y a des moments où on étouffe. Et on a du mal à trouver ces espaces, vraiment concrètement, un espace où on peut respirer, et puis ces espaces du point de vue, disons, ontologique, ou comment on va se déployer, parce que la vie n'est pas juste le fait d'avoir donné la vie.
Alors, vous vous déployez dans le One Man. Vous parlez beaucoup de vos parents, on l'a entendu. De vos enfants, on va en parler. Et de très peu, finalement, de votre compagne que vous évoquez un petit peu avec cette musique qui est la plus que lente. Ce qu'on entend là, sous ma voix, qui évoque le moment où elle était enceinte, où elle avait vraiment du mal à se déplacer.
Ouais, c'est bien une petite. C'est le Debussy. Disons qu'en fait, la fin du spectacle, et pour ceux qui viendront, je vais pas tout spoiler maintenant, mais il y a la question du patriarcat, de la masculinité nouvelle, et puis le rapport entre. Dans un couple, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel, d'ailleurs, c'est pas la question, c'est le rapport entre les hommes et les femmes. Et. Tout en essayant de déblayer les gros clichés sur les femmes qu'on entend partout, souvent dans les sketchs d'humour un petit peu gras, et ben il y en a quand même quelques-uns que je conserve parce qu'il y avait cette impatience, par exemple quand on attendait les enfants, quand elle était enceinte sur la fin de la grossesse, il y a une impatience qui est partagée et c'est un des rares trucs qu'on a vraiment partagé et que j'étais en mesure de partager depuis ma distance de futur papa. C'était cette fatigue, cette lenteur de la fin d'une grossesse et qui s'est déployée pour le coup le jour de l'accouchement, de la libération.
Quand on écrit un seul en scène alors qu'il y a une offre pléthorique, hein, vous l'avez dit, il y a même une école du One Man Show.
Il y en a plusieurs, oui, il y en a même plusieurs. Ouais.
Comment est-ce qu'on réfléchit à se différencier? Ou alors est-ce que c'est une évidence?
Je crois qu'il faut accepter de mettre en avant ce dans quoi on se sent bien. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à être au micro. La forme stand-up pure, qui est en plein boom, et qui est une forme géniale aussi d'expression humoristique. On en parle beaucoup, évidemment, ces derniers temps, avec l'affaire Ben Lazar. Il y a beaucoup de super humoristes qui sont au micro. Moi, c'était moins la forme qui me convenait. Et j'ai accepté que le piano, puisque j'avais fait 25 ans de piano, était la forme qui me permettrait de me déployer artistiquement sur scène. Et finalement, c'est plus du seul en scène. Il y a du stand-up dans mon spectacle, mais c'est plus un seul en scène, ce qu'on appelle un sketch-up, quoi. On mélange le sketch, le personnage, l'adresse où on fait tomber le quatrième mur, la poésie et la musique.
Ce piano, il a un nom, c'est un personnage, il est encombrant. Hein.
Il est encombrant.
Vous lui dites même, tu as grossi.
Tu as grossi, c'est mon miroir, c'est ma deuxième peau, je l'ai appelé La Peau, justement. La Peau, c'est un prénom italien, toscan. Il y a des grands La Peau chez les Médicis, par exemple, La Peau. Et La Peau, parce que mon nom de famille, c'est Rech, et j'ai entendu toute mon enfance que j'étais dur, et tout en étant drôle, que j'étais aussi très dur. Donc La Peau Rech, c'était parfait. C'était un duo idéal pour jouer de la spécularité entre moi et la musique. Et parler de mon piano, c'est un peu parler de moi. Et quand mon piano parle, c'est un peu moi qui parle aussi.
Alors, il y a le verbe, mais il y a aussi le corps. Le corps qui est important, c'est peut-être le point commun que vous avez avec Étienne Duro, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est la mise en scène de votre corps qui, tout de suite, est l'objet de toutes les attentions.
Oui. Disons qu'à 40 ans, on a une crise aussi du corps, notamment quand on pense à l'homme idéal, où il faut être musclé. Moi, je déteste faire de la muscu, par exemple. Je ne me sens pas spécialement mal dans ma peau, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était compliqué. Et je pense que c'est compliqué aussi, évidemment, pour plein d'hommes. La question de la calvitie, que j'ai assumée bon an, mal an. La question du fait de grossir, de vieillir, d'avoir des poils partout, enfin ce genre de choses. Et c'est constitutif aussi d'un rapport à la vie, d'un rapport à la paternité, assumer ses propres complexes. Et j'essaie de déployer, de parler de ça avec humour. Et du coup, je le transfère aussi sur le piano, qui a lui aussi 40 ans sur scène, et qui a une touche qui ne marche pas, la pédale qui déconne, mais qui résonne. Il résonne quand même.
Alors, Daron Noir, pour tous ceux qui ont envie de voir s'exprimer un père multiple, un mec et un fils. Daron Noir, c'est au théâtre. Et on va en réécouter pour se quitter un petit extrait. Et cette fois-ci, je crois que vous parlez de vos enfants.
C'est parti.
C'est du Ravel, d'une barque sur l'océan. C'est beau, hein? Ça fait pleurer, ça désinfecte un peu. Et en même temps, c'est de l'eau de Ravel. Ça c'est l'océan, c'est la vie, c'est les enfants. Et puis ça, c'est moi, c'est la barque qui essaye de pas chavirer. Thank you. faim. J'ai soif. Papa, je m'ennuie. Papa, caca, caca, caca. Ils sont forts, les bâtards. Même quand ils sont pas là, ils sont là. J'ai trois enfants. Ressenti neuf. J'ai élaboré ma propre météo parentale. Par exemple, le petit qui hurle en public, le bébé, ressenti 1,8 sur l'échelle de Richter. Les deux aînés qui se disputent dans un train, on peut taper jusqu'à 5. Une épidémie de gastro. Ça monte jusqu'à 12 en fonction de la circulation du virus. Et ben cet hiver, messieurs, dames, tenez-vous bien. Ils se sont consultés, les petits cons. Ils ont décidé de tomber malades en même temps.
Sur Allegre FM, c'est Radio Scénique qu'on a sous-titré aujourd'hui, seul, pas vraiment. Pauline Guilherme, bonjour.
Oui, bonjour.
Pour vous présenter, vous écrivez « Depuis que j'ai appris à écrire, j'écris des histoires. Depuis que j'ai appris à lire, je lis des histoires. » Vous êtes comédienne et donc autrice, et votre texte est lauréat des écrivains et écrivaines associés du théâtre en 2024, les EAT avec lesquels nous avons un partenariat. Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a plusieurs personnages, c'est ça ? Il y a un père perdu, une baie, une biche ?
Absolument. Donc, le texte s'appelle « Gardienne des baies ». Et effectivement, c'est Anna, la fille de ce père, qui n'a plus de nouvelles de lui avec son petit frère Sol. Et donc, ils sont tous les deux à la recherche de ce père qui a disparu. Et le texte va mener en fait l'enquête autour de cette disparition. Sur fond un peu de récits un peu haletants parce que on ne sait pas où est ce père, et en même temps de récits un peu oniriques puisque cette jeune femme s'en va dans la forêt la nuit à la recherche de son père et elle tombe sur une biche blanche qui va lui permettre de petit à petit comprendre et accepter l'inéluctable puisqu'on découvrira, bah, je ne veux pas trop dire la fin, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose comme si la biche venait un peu annoncer la mort du père. Voilà.
En même temps, ce récit, les discursifs, on revient en arrière sur la vie entre les enfants et leur père qui n'a pas toujours été commode et alcoolique a priori, hein.
Alors effectivement, l'enquête et la recherche du père permet aussi de faire des sauts dans le temps. Et effectivement, il y a toute une partie de la trame narrative qui englobe les jeunes années de Anna et Sol et dans le lien avec leur père. Et effectivement, j'ai pas du tout eu envie de traiter une thématique autour de l'alcoolisme ou autre, mais plutôt d'un système familial qui était fragile, avec de l'amour, mais aussi des difficultés, et sans complètement rentrer de façon frontale dans une problématique particulière. C'est plutôt de dépeindre une dynamique familiale fragile, avec la disparition d'une mère trop tôt, et qui a aussi qui éclaire un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec cette disparition et les différentes inquiétudes autour de cette disparition. Il faut... Voilà, c'est plusieurs, finalement, plusieurs trames narratives qui s'entrecroisent.
Il faut prévenir le spectateur, parce que votre texte va être monté au mois de mars, on le reprécisera tout à l'heure, au Théâtre de l'Opprimé. C'est un texte foncièrement onirique. J'insiste là-dessus, hein, parce que c'est pas un texte réaliste, c'est un texte plus versé vers l'onirisme.
Oui, alors c'est vrai que vous avez raison, tout le lien avec la biche en fait amène beaucoup de presque un monde un peu fantastique et en même temps moi j'aime beaucoup écrire du théâtre pour cette raison-là aussi, c'est qu'on peut partir dans un certain onirisme, une certaine rêverie aussi on peut partir en poésie aussi parce que pour moi la rencontre avec la biche elle est permise aussi grâce au procédé poétique. Et en même temps, moi, j'aime énormément raconter des histoires. Donc, pour moi, tout ça peut exister parce qu'il y a une trame narrative très concrète. Anna, elle est en répétition pour un concert avec son amie d'enfance. Et c'est aussi, et il y a une enquête réelle autour de la disparition du père. Il y a une vraie recherche qui s'engage avec contact, avec différentes institutions pour essayer de le retrouver, etc. Donc, ça, c'est très concret. Et pour moi, c'est parce qu'on est vraiment dans une narration très empreinte de... Pas de réalisme au théâtre, on n'est pas forcément dans le réalisme, mais en tout cas, on y croit à cette histoire-là. Alors, ça permet de partir aussi vers plus d'onirisme. Quoi.
Alors, il y a de l'onirisme, mais il y a aussi beaucoup de sensibilité. Je vais vous citer, on vous entendra tout à l'heure dans lire un extrait, mais j'en ai pris un autre que j'aime beaucoup. Où c'est Sol qui parle. J'adore apercevoir son regard derrière la vitre de la cuisine quand je joue dans le jardin. J'adore voir ses appels en absence. J'adore sentir son odeur, la clope et l'alcool mélangés dans une pièce qu'il vient de quitter. J'adore sa façon chancelante de marcher. J'adore quand sa voix s'adoucit après les cris. J'adore quand il ouvre la porte de la maison quand je reviens de l'école. J'adore quand il m'embarque dans des histoires. Il y a toujours du vrai et du faux et souvent il faut le relever quand il tombe. C'est aussi cette sensibilité, ce souvenir de l'être disparu.
Oui, bien sûr. La disparition du père, elle permet aussi, comme souvent quand il y a une disparition, je pense plus à la mort, mais de convoquer les souvenirs avec la personne quand elle était avec nous, que ce soit des souvenirs très lointains, des souvenirs d'enfance ou des souvenirs plus proches. C'est souvent ces souvenirs aussi d'amour qui ressortent très fort. Et ça, j'avais très envie aussi que ça existe, cet amour-là, que dans le texte, même en racontant l'histoire d'un père qui a un peu failli aussi à cause de ses difficultés, j'avais aussi envie que ces souvenirs-là ressortent de façon un peu anarchique et avec l'amour et avec les difficultés. Mais effectivement, je pense que la présence d'un disparu dans une pièce de théâtre permet aussi de parler de ce disparu et de le faire exister pleinement, en fait. Voilà, c'est un peu la force du fantôme au théâtre aussi.
Pauline Guilherme, vous avez la gentillesse de nous enregistrer un petit extrait de votre gardienne des baies. Alors, on s'est permis de le mettre, de l'habiller un petit peu, et on écoute tout de suite, muni de cet habillage, sur Allegre FM 93.1.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Anna, j'ai marché toute la nuit. J'ai traversé le bois en face de la maison. Les arbres, leurs ombres, les branches mortes sous les pieds. La lune était quasi pleine. Je pouvais tout voir, tout sentir. Le vivant, partout. Toute la nuit, j'ai demandé. J'ai demandé aux feuilles, aux fleurs, aux herbes. J'ai demandé à la forêt. Vous n'avez pas vu mon père ? Mon père qui passerait par là. Un grand, un peu chauve, baraqué, le dos voûté, la tête baissée. Vous ne l'auriez pas vu ? Qui serait passé par ici ? À l'orée de la forêt, je suis arrivée dans la baie des Anges. J'ai marché au bord de l'eau. La brise n'était pas comme d'habitude. C'était par à-coups. Comme si une porte venait de s'ouvrir. Un courant d'air. Un souffle glacial. C'est juste à ce moment-là. J'ai tourné la tête vers l'entrée de la forêt et je l'ai vue qui sortait de la clairière, élancée. Elle avait un pas assuré. Elle filait en direction de la baie des Anges. Elle s'est immobilisée. C'est quand elle m'a vue qu'ensemble et en même temps, on s'est arrêté de bouger. On s'est regardé un long moment les yeux dans les yeux. Je pouvais même la sentir respirer. On ne voyait qu'elle. Elle reflétait la lumière de la pleine lune. C'était une biche blanche et elle brillait dans la nuit. On aurait dit qu'elle voulait que je lui parle. Ses oreilles géantes, comme des enceintes qu'on viendrait d'allumer, prêtes à diffuser mes cris dans la nuit. Les cris dans la forêt de celle qui cherche son père. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, c'est sorti tout seul, j'ai dit « Papa ?» Comme si ça pouvait être lui, mon père, là, dans la nuit. « Papa ?» J'ai dit encore. Et la biche s'est sauvée. « Papa ? Papa, c'est toi ? C'est toi ? C'est toi, papa ? Tu es venu jusque-là pour me dire quoi ? Pour me prévenir ? Me prévenir de quoi ? De quoi, papa ?» J'ai gueulé en pleine nuit dans la forêt. J'ai marché dans la baie, dans la forêt, dans la baie, dans la forêt, dans la baie, dans la baie. J'ai été aspirée par la baie des anges. Le soleil s'est levé, la brume est tombée sur la baie. « Papa, c'est toi ? Tu veux me dire quelque chose ?»
Sur Aligre FM, on vient d'écouter un extrait de votre texte, « Gardienne des baies », Pauline Guilherme. C'est quoi votre thématique de prédilection ? Vous avez eu un prix aux EAT, hein, aux écrivains et écrivaines associés du théâtre. Quels sont vos thèmes de prédilection de votre écriture ?
Moi, je m'intéresse beaucoup au lien au territoire. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu les territoires qu'on occupe, ceux qu'on habite, qu'on quitte, qu'on traverse, et notamment les places aussi qu'on occupe au travers de ces territoires-là. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les trajectoires singulières, les trajectoires de vie. Alors là, dans Gardienne des baies, c'est un peu un mélange des deux, puisque c'est vraiment une histoire intime, familiale. Et en même temps, au travers de ces espaces-là qu'on traverse, puisque Anna a grandi dans la baie des Anges, elle a été amenée à partir après la disparition de sa mère avec le père, ils sont partis loin. Et puis à l'âge adulte, elle décide de revenir, de réinvestir cet endroit. Donc qu'est-ce que ça signifie aussi de revenir dans l'endroit où on a grandi ? Et voilà, pour moi, ça pose toutes ces questions-là. Et toujours sur fond un peu d'émancipation finalement, mes personnages, quels que soient leurs âges, que ce soit des personnages tout jeunes, puisque j'écris aussi du théâtre jeune public, ou des personnages bien plus âgés, finalement, quel trajet ils font dans leurs histoires pour continuer à grandir, s'émanciper, s'affranchir aussi de certains codes, de certaines aussi prédispositions de départ. Et je trouve que ça me met en mouvement, l'idée de pouvoir écrire sur comment est-ce qu'on continue tout au long de sa vie à grandir, en fait. Et où est-ce qu'on continue à grandir ?
Alors, précisons-le.
Et avec qui ?
Oui. Précisons-le, ce prix que vous avez obtenu, auprès des EAT, hein, des écrivains, écrivaines associés du théâtre, c'est un texte qui est choisi parmi, je crois, 300 cette année, hein, 200, 300. C'est parfaitement anonyme et c'est un texte qui n'a jamais été joué. Et justement, le vôtre, là, il va être présenté et mis sur scène au Théâtre de l'Opprimé le 20 mars à midi. On peut peut-être expliquer, on l'explique à chaque fois qu'on reçoit une ou un auteur ou une autrice. Ça consiste en quoi cette mise en maquette ?
Alors, je dois vous dire que c'est la première fois que j'ai assisté à une mise en maquette des midi des EAT. Je sais que ça fait plusieurs années qu'ils organisent ça et c'est une manière de mettre à l'honneur effectivement les textes lauréats. Des comités de lecture des EAT. Et là, c'est un groupe, je crois, d'élèves du CNSSD, du conservatoire, qui va mettre en voix mon texte. Et les EAT appellent ça une mise en enquête. Donc, je pense que ce sera une mise en voix et en espace un peu plus approfondie qu'une lecture. C'est pas une mise en scène. C'est long, une mise en scène. Donc, c'est une façon de pouvoir donner à entendre le texte. Moi, je suis vraiment très heureuse. C'est la première fois que je l'entendrai lu par des comédiens et des comédiennes. Donc, c'est aussi, pour moi, une belle manière aussi de me rendre compte au plateau de comment le texte fonctionne, comment il résonne. Et comme le texte, en fait, va être publié chez Lanceman Éditeur, qui publie mes autres textes de théâtre, C'est bien aussi d'entendre mon texte pour peut-être peaufiner quelques endroits de réécriture et puis de réajuster. Voilà, parfois c'est un petit recalibrage très petit, mais je trouve que c'est intéressant pour moi d'entendre mon texte. Et puis je trouve que c'est aussi l'occasion de le faire entendre. Oui. Et pourquoi pas de donner envie à des personnes de s'en saisir.
De le reprendre, bien évidemment.
Voilà.
Pauline.
L'histoire de l'écriture théâtrale, c'est toujours aussi de pouvoir donner à entendre son texte, que d'autres l'entendent, que ça circule. En fait, les écritures théâtrales, et ça, il y a un vivier de comités de lecture, de structures, d'auteurs, d'autrices qui s'investissent, mais aussi des gens de théâtre, des comédiens, des comédiennes, des metteurs en scène, des metteuses en scène. Enfin, il y a vraiment, c'est très beau cet élan, oui, qui existe dans le milieu de l'écriture théâtrale pour faire connaître les textes.
Absolument, et ça, les EAT,
et les faire circuler.
Pauline Guilherme, on arrive au terme de cette émission, on va vous remercier. Rappelons que vous êtes l'autrice de Gardienne des baies.
Merci.
Fin de cette 8e édition de Radio Scénique, votre nouveau magazine sur la création scénique à l'antenne d'Aligre FM 93.1. Merci aux invités qui nous ont fait le plaisir de venir dans nos studios. Étienne Dureau, qui est interprète de Gros Câlin, présenté en ce moment au Théâtre du Chariot, une pièce inspirée de Romain Gary, Émile Ajar, hein, c'est le pseudo qu'il a employé pour la première fois pour écrire ce texte. Et c'est Julie Roux qui met en scène, elle était également avec nous en studio. Merci à tous les deux. Stéphane Reich était également avec nous pour nous présenter Daron Noir. Il présente son seul en scène musicalo-comique et narcissiso-décentré au Théo Théâtre. Et pour la partie EAT, les écrivains et écrivaines associés du théâtre avec qui nous avons un partenariat, nous avons reçu Pauline Guilherme. Nous l'avions au téléphone, elle est l'autrice de Gardienne des baies, qui sera mise en scène au Théâtre de l'Opprimé le 20 mars à midi. Toutes ces informations, comme le programme que vous avez écouté, seront très bientôt disponibles en podcast sur le site aligrefm.org. Merci à mon équipe de ce jour, Pierre Demkoff, qui a assuré la programmation musicale et m'a aidé à la préparation de cette émission. Quant à Enrico Mastrogiovanni, merci, un merci infini à lui qui nous a sauvé la mise. Merci, merci à Enrico qui était à la technique. Nous nous retrouverons bien dans 2 semaines pour une nouvelle édition de Radio Scénique. Il est 10h58, à 11h, vous retrouverez, après le théâtre, vous retrouverez le cinéma avec toute l'équipe de Vive le Cinéma sur Aligre FM 93.1.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.